Vous écoutez
RMC.
RMC.
Un match compte à rebours qui peut s'étirer dans le temps et qui peut
profiter. Compte à rebours qui peut s'étirer dans le temps, alors laisse-moi comprendre.
Le tic-tac.
Ah, le tic-tac, tic-tac, ouais, qui peut.
Ouais, 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 c'est d'accord. Ça.
Et t'inquiète pas, Red Star, j'ai fait mes 6-7 apparitions l'année dernière à Bauer et je ferai la même chose à Jambon.
La nouvelle voix de l'After 2026 est Adem.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After, 21h passé 3 minutes avec Adem, la nouvelle voix de l'After, qui est avec nous. On va pas dire toute la saison, Adem, hein, tu sais, hein, on va être tranquille après avec ça.
Faut inaugurer, mais ensuite, une fois que ça.
T'as écouté ce soir un peu? Pas.
Ouais, bien sûr, la famille
écoute tout ça.
J'ai reçu quelques messages, je les remercie aux Afteriens qui attendaient mon arrivée, qui m'ont
envoyé. Des messages, on t'a demandé
quoi,
sur Insta, tout ça.
Quand est-ce que tu commences?
D'accord.
Très franchement,
on les salue également, quoi. Walid est là également, qui était un membre du jury éminent de Nouvelle Voix de l'After.
Qui m'a bien tordu en finale, qui m'a emmené dans le ring, dans le coin.
Ah bon?
Non, j'avais pris la marée ce soir-là.
Je me rappelle d'un débat sur les Hernandez, là on s'était un peu bafouillé sur les noms.
Très très bien battu.
Personne ne voulait lâcher. D'ailleurs, j'ai révélé après que c'était de la mauvaise foi, mais je voulais juste pas lâcher le morceau avec Walid.
Sache que Walid voulait absolument pas que sur la Nouvelle Voix de l'After.
C'est vrai?
Non, c'est pas vrai.
Vu les
vacances. Il a voté pour toi, je crois.
Oui, j'ai voté pour lui.
Eh oui, évidemment.
Et pour le coup, avant la.
Elton, c'est vrai.
Anecdote, avant la finale, j'ai dit c'est Adem qui va la gagner.
Oh, sur les pronostics.
Ouais, pronostics, ouais.
Elton Mokolo est là également. Elton qui débute dans le métier, comme tu dis tout à l'heure.
Hein, exactement.
Bizarrement,
C'est ça, oui.
Excès de modestie, peut-être.
Bah oui, je débute dans le métier. Moi, j'apprends beaucoup.
T'as compris.
Le boulard du bonhomme.
Mais je comprends pas.
Comment ça, le boulard? C'est faux.
C'est ta résolution, c'est l'humilité cette année.
Exactement.
Parce que tu ne nous as pas habitué.
Humilité promax.
Fausse humilité.
Lyon a encore échoué. Fonseca a encore échoué. Quoi qu'on dise, c'est un gros coup dur pour l'OL, bien sûr, financièrement, sportivement. Je rappelle, hein, phase de ligue, Ligue des Champions, ça apporte 18,5 millions d'euros, quoi qu'il arrive. C'est sur la table. Après, il y a tout ce que rapportent les matchs, les victoires. C'est 2,1 millions d'euros cette année, une victoire en Ligue des Champions, par match. Hein. 700 000 euros le match nul. Bref, énorme manque à gagner pour l'OL. Le mercato, on va attendre, bien sûr. On a écouté hier les déclarations de la direction des qui disait ne vous inquiétez pas. On avait projeté Ligue Europa dans nos prévisions. Voilà, on va voir ça. En tout cas, ça peut faire de la casse sur la fin du mercato lyonnais. Pas mal de supporters de l'OL attribuent l'élimination à Paolo Fonseca en grande partie. Êtes-vous d'accord avec ce constat? Puis on parlera de la suite pour Lyon. Comment se reconstruire? Est-ce que ça peut être une véritable cassure ou pas dans ce tout début de saison pour l'Olympique Lyonnais? Vous en pensez quoi, les gars? Vous n'avez pas encore entendu sur Lyon, notamment hier soir, c'était Flo Gautreau et Sam Ontidi qui étaient présents. C'est un choc monumental ou pas?
Monumental, oui. Enfin, c'est un rendez-vous manqué.
Moi, j'étais hyper confiant. Je faisais partie des mecs hyper confiants.
On était ensemble le mardi. La première demi-heure que tu fais, alors que tu as quand même. Fait reposer toute ton équipe contre Toulouse, pour moi c'est une honte. Dans un stade en ébullition, dans un rendez-vous aussi important pour ton club, pour faire changer de dimension ton club, retrouver une compétition que tu n'as pas connue depuis 2020, moi j'ai pas compris. Et puis surtout que la différence entre la première mi-temps à l'aller et la première mi-temps au retour, où collectivement j'avais l'impression quand même que Lyon était bien supérieur à Fenerbahçe, c'était tout le contraire sur ce deuxième match-là. Et puis moi je trouve qu'il y a eu besoin d'un espèce d'aura football à 2-0 où t'es au bord du précipice, où t'es beaucoup plus proche du 3-0 que du 2-1 et ça t'a permis d'aller réduire le score avec ce but de Malik Fofana. Mais derrière, il n'y a rien de maîtrisé. J'ai trouvé que le milieu de terrain était en grande difficulté. On en parlera après sur Fonseca. J'ai pas compris certains choix. Encore une fois, s'entêter avec Maitland-Niles au poste de latéral droit alors qu'Atekame avait fait un super match contre Toulouse et que dans l'intensité défensive, on sait que Maitland-Niles il te crève à chaque match, à chaque gros rendez-vous. Donc voilà, aujourd'hui, ouais, c'est un de plus après ce qui s'est passé contre Toulouse en fin de saison, le match contre Lens, surtout à la maison face à une équipe B qui pouvait te donner la Ligue des Champions, et puis même globalement Celta Vigo l'année dernière, alors après une phase de ligue où on t'avait donné on nous avait donné beaucoup de promesses, beaucoup d'espoir, où en deuxième mi-temps, enfin sur ce deuxième match-là t'avais déjà failli. Voilà, ça commence à faire beaucoup pour l'OL, parce qu'on est là pour dire quand c'est bien, quand dans la difficulté Fonseca arrive à optimiser son équipe, mais le problème c'est que quand t'arrives devant la boîte de nuit, tu rentres pas, quoi.
Ouais, ça fait beaucoup.
Tu rentres pas, hein. Tu, tu peux pas rentrer. Tu t'es bien habillé pendant pendant toute la soirée, maquillé, voilà, tu t'es parfumé, très bien, mais tu rentres pas. Tu
ça
rentres
fait beaucoup,
pas.
Mais
à chaque fois qu'il faut rentrer, tu rentres pas.
Mais le responsable désigné à chaque fois, c'est Fonseca, et je trouve qu'il a bon dos, parce que les joueurs, à un moment donné, à chaque grand rendez-vous, dans l'intensité, ils sont pas là. Hier, sur la première mi-temps, il y a une stat que j'aime bien regarder, les duels gagnés. Fonseca, il peut pas gagner les duels à la place des joueurs. Et à un moment donné, sur la première mi-temps, tu perds plus de duels que t'en gagnes. Et donc, forcément, dans le rapport de force, dans la combativité, dans un stade plein de 55 000 personnes que tu dois enflammer, qui attendent que ça, les joueurs n'ont pas été capables
Fonseca,
de faire.
Fonseca, il peut pas gagner des duels?
Bah, Fonseca peut
il
pas
peut
les
mettre
gagner.
Des joueurs qui en gagnent.
Ah, mais attendez, on lui a fait le procès contre le Slavia déjà, sur la phase sur le barrage juste avant. Il met le 11 type qui fait un bon match au Fenerbahçe, qui sûrement aurait dû optimiser en plus le résultat, rentrer avec la victoire. Il y a eu des regrets après ce match-là. Il remet la même compo qui a fonctionné. Il les fait tourner, il les met au repos, et tu m'expliques qu'il aurait fallu tout changer.
À Lyon, toi?
Bien sûr.
Et Maitland-Niles, tu en penses quoi depuis un an et demi?
Maitland-Niles, c'est un joueur type Lyon. Qu'est-ce que tu veux de plus pour Lyon?
C'est-à-dire, c'est un fainéant.
Défensivement, on sait ce qu'il peut apporter, on sait ce qu'il te coûte.
Donc, comment ça se fait que, semaine après semaine, mois après mois, à chaque fois qu'il y a un gros rendez-vous, Maitland-Niles, il est souvent sur la photo de famille. Pourquoi?
Mais qui l'a placé, hein?
Mais Atakame, il est venu pour être titulaire. Parce que moi, la même chose, hein. Parce que là, on va parler de Fonseca, on parle des joueurs.
Atakame, tu connaissais bien avant.
Même la gestion du mercato. Quand tu as un barrage comme ça aussi important, les joueurs doivent arriver bien plus tôt. Et Bacher à la place de Kluivert qui a encore été Kata derrière en défense centrale, et Maitland-Niles, ces joueurs-là auraient dû venir plus tôt. Et je pense que même avec le match contre Toulouse, où je vais te dire un truc, au-delà de la composition d'équipe, c'est quoi, je vais faire un pas vers toi. Mais à la mi-temps, il y a combien?
Il perd 2-0.
Ouais, il fait ses changements à combien?
60e.
Ouais, c'est normal.
Il a pas aimé la question hier d'ailleurs.
Non mais c'est un entraîneur.
Non mais au final, les changements ils marchent ou pas? Les changements ils marchent.
C'est trop tard.
Il revient à 2-1, il revient deux fois 2-2 et c'est annulé pour 3-0. Un bout de bras qui dépasse.
Heureusement que le petit Aïdine qui avait fait une super première mi-temps, ou même l'occasion de Guendouzi, heureusement t'es sur un fil, t'as le penalty de Niakate qui peut siffler. Donc le match à la 60e minute avant les changements, tu peux déjà dire au revoir à tout le monde, serrer les paluches et rentrer au centre d'entraînement, rentrer à l'hôtel.
Parce qu'à la 60e minute, quand tu perds 2-0, tu reviens à 2-1, t'as une enflammade complète, tu fais deux fois 2-2, et à la 90e minute, t'as encore un face-à-face où il le met à côté. Donc à un moment donné, les changements ont porté leurs fruits.
Mais t'es en retard sur le match.
Bien sûr, t'es en retard, mais il y a de la qualité en face aussi.
Mais t'as déjà perdu ton duel.
Moi, la seule chose que je reproche à Fonseca, c'est que sur la conférence de presse de veille, il t'explique qu'il met un point d'orgue sur le fait de vouloir être équilibré, et que à force d'être vouloir être trop équilibré, tu te rends compte que sur le match, ils sont devenus transparents et qu'ils ont commencé à reculer et à être comme des fantômes. Non, je te parle sur l'entame de match. Sur le reste, sur la gestion du match, je suis désolé, il y a des faits de match
qui est tardive. Je trouve qu'encore une fois, je répète, mais à chaque fois, moi Fonseca, c'est un entraîneur que j'adore. J'ai toujours dit, l'année dernière dans les situations compliquées, à Lille la même chose, c'est un mec qui met les bases. Sauf que le problème c'est quoi? C'est que c'est un mec aussi qui s'endort sur son football et qui commence à nous endormir. C'est quand même un coach qui est aujourd'hui le deuxième coach le mieux payé de Ligue 1.
Exactement, derrière Luis Enrique.
Ok, donc il prend une grosse quicheta, il prend une grosse sacoche. Il y a un moment, à chaque gros match, si son équipe, elle n'arrive pas à enflammer les rencontres, s'il n'arrive pas à mettre de l'intensité dans ses matchs, quand tu dois recevoir à la maison le Celta Vigo, lance en Coupe de France, lance à la fin de la saison avec une équipe B qui prépare sa Coupe de France une semaine avant, ou Fenerbahçe, c'est qu'il y a un moment, il doit être responsable de certaines choses.
Donc toi,
c'est qu'hier, attends, laisse-moi terminer. C'est qu'hier, Adem, hier le trio de devant, parce que là tu joues plus avec Pipo et Bom et avec Alfonso Moreira, avec je sais pas qui, hein. Là tu joues avec Fofana qui vaut 40 millions d'euros aujourd'hui sur le marché, Openda qui vaut 50 bâtons et Nouama qui vaut 20 bâtons. Donc t'as une attaque à 100 millions d'euros en valeur marchande Transfermarkt hier et il se passe rien.
Mais donc toi, tu penses que sur le tableau noir, avant le match, Fonseca, il a dit on recule devant nos supporters, on se fait confisquer le ballon. Mais non, mais tu penses que
Fonseca, il pouvait. S'il n'arrive pas à transmettre, c'est comme De Zerbi. De Zerbi, grand fan de De Zerbi, moi. Mais il y a un moment, quand il y a une différence entre ce qu'il dit en conférence de presse et ce qu'on voit sur le terrain, il y a un moment, il est payé pour ça, le bonhomme.
Mais à un moment donné, t'as pas vu un manque d'envie chez les joueurs hier, avant tout, quand même.
Mais manque d'envie alors que tu joues la Ligue des Champions, il y a 15.
Mais donc, il faut s'en prendre aux joueurs aussi, pas uniquement au coach Fonseca. À chaque fois, on revient sur le coach. Moi, je veux parler
là,
des joueurs,
de responsabilité.
Il a une partie d'accord avec toi,
est un coach qui souvent choque. Souvent, quand il y a les résultats qui te font basculer des saisons à Lille, à l'AC Milan.
Il choque avec les mêmes joueurs. Si à chaque fois tu avais régénéré un effectif, comme c'était le cas à Marseille, où tous les ans tu changes le 11. Mais là, c'est avec le même 11. Ouais. C'est les mêmes joueurs qui montrent les mêmes limites. Il n'y arrive pas tout comme les joueurs. Hier, je suis désolé, je te prends les cadres. Mais il est lâché par un Corentin Tolisso, par exemple, sur le match.
Il sort pas alors.
Vas-y, Adem.
Mais il sort pas parce que que sur le banc tu as mieux.
Mais non, non, c'est ton capitaine. Il y a un changement politique.
C'est ton capitaine.
C'est Tesman qui sort avant. Tesman sort avant, alors que Tesman est le meilleur milieu
de
terrain.
Donc vous, messieurs, quand ça va mal, le premier nom qui vient au milieu de terrain à Lyon à sortir, c'est Corentin Tolisso.
Mais je vous explique
qu'hier, Corentin Tolisso, il a pris la marée face à N'Golo Kanté, face à Guendouzi, c'était le moins bon. Mais que quand tu as un score à rattraper chez toi, que tu as besoin d'un leader qui emmène tout le monde avec toi, avoir Corentin Tolisso sur le terrain, c'est pas le premier nom que je sors.
Emprisonné. Donc oui, t'es emprisonné.
Bien sûr. Mais t'es emprisonné.
Pas bon, tu peux pas le sortir.
Mais le responsable.
Donc Fonseca, lui, qui est le chef, qui doit être normalement le Luis Enrique de l'Olympique Lyonnais, d'accord, qui a un gros contrat, qui a un coach de renom, il ne peut pas. C'est ce que tu me dis.
Il peut le faire.
Mais non, il le fait. Non.
Il peut le faire. Mais moi, je te dis que quand tu as un score à rattraper et que tu as Corentin Tolisso sur le terrain,
il est dû à qui
pour marquer un but, il vaut mieux avoir Tolisso que Tesman sur le terrain.
D'accord.
Et offensivement, pour apporter un petit peu plus.
En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, comme l'a dit Thierry Henry, à chaque fois qu'on te met des arguments, tu déplaces la cage, Adem. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand je te dis que Maitland Niles, il doit pas démarrer ou il doit pas reprendre le match à la mi-temps, tu me dis non, c'est la compo qu'il fallait mettre. Quand tu me dis que Tolisso crève Fonseca, parce qu'il faut parler des joueurs, et que je t'ai dit, mais pourquoi c'est Tesman qui sort et pourquoi il n'y a pas une restructuration tactique avec Schultz derrière Openda en passant en 4-4-2 et Tolisso qui sort? Tu me dis, non, mais Tolisso, c'est pas lui qu'il faut sortir sur la fin de match parce que c'est lui qui peut t'emmener un élan. Mais en fait, à ce moment-là, bah, on dit rien, c'est super, magnifique. Fonseca, il peut rien faire. Et par contre, quand Fonseca, ça fonctionne très bien comme l'année dernière, qui fait 13 victoires d'affilée et que nous, sur tous les plateaux, on dit c'est un génie, moi le premier, d'accord? Quand c'est très bien, on dit Fonseca, c'est très bien. Par contre, quand c'est pas bien, Fonseca, il a pas de responsabilité. Non. En fait, il tire que les lauriers, lui.
Non, je dis pas ça, il a sa part de responsabilité. Je peux être d'accord avec toi sur Maitland Niles au début du match. Soit tu le mets, soit tu le mets pas. Mais à partir du moment où tu es mené, quand tu sais que c'est un meilleur contre-attaquant que défenseur et que tu dois remonter au score, c'est quelqu'un qui peut t'apporter.
Qu'est-ce que c'est qu'un héritage? Il est soit immobilier, jusqu'à la 90e minute, t'as
deux buts. Je suis désolé, le penalty c'est du 50-50. On est là à parler, on est là, mais le penalty pour moi il est extrêmement sévère. Ils se font crever par la VAR.
Mais aussi arbitre.
Ils se font. Parce que hier, on pourra revenir sur la faute si vous voulez après, parce que c'est un cas d'école. Hier, c'est une faute défensive. L'arbitre peut soit directement se mettre en sécurité, la siffler, donner faute à la défense, et là on en parle plus après le match. Par contre, à partir du moment où il ne la siffle pas,
tu parles de quoi? Sur le but de Boudache?
Ouais, du but de Boudache refusé.
Ouais, bien sûr.
À partir du moment où l'arbitre ne siffle pas la faute, c'est qu'il sent qu'en fait le défenseur se laisse tomber. Mais par contre, quand la VAR l'appelle et le met devant la télé, devant les images, en fait, il le crève. Parce qu'à partir du moment où tu es devant la télé et que tu vois le contact, tu es emprisonné. Tu n'as pas d'autre solution.
La prudence t'oblige à siffler faute.
Par contre, je pense que son premier feeling était le bon et que des fois, quand on est arbitre, quand on est au bord de la surface, qu'on ressent l'action et qu'on n'est pas devant l'image. Un contact, oui, mais un contact ne veut pas forcément dire faute. Et hier, je suis sûr que le défenseur se laisse tomber parce qu'il sent qu'il est en train de perdre le vis-à-vis, qu'il a fait n'importe quoi et que derrière, c'était la bonne décision qui a été prise. Mais à partir du moment où tu le mets devant l'écran et qu'il voit le contact, il est obligé de la sanctionner. Maintenant que ça s'est dit, hier, en fait, moi, ce que je veux juste essayer de faire comprendre, c'est que dans un match de football, on peut pas tout maîtriser. Et à partir du moment où ton entame de match, elle est catastrophique comme ça, et que tu es obligé de courir après le score, et que dans cette course après le score, tu arrives à deux reprises à revenir, et que ça se joue à rien du tout, ben, moi, c'est les aléas du foot. Et hier, malheureusement pour Lyon, malheureusement pour Lyon, quand vous regardez le plateau hier, ils ont pris le plus mauvais tirage au barrage. Ils ont pas joué les pantins de je sais pas où hier.
C'est les aléas, Toulouse.
C'est pas les aléas, mais l'année dernière, les points que tu perds contre Toulouse et Lens, tu les as pris ailleurs à un moment donné, tu les méritais pas. Tu t'as été les prendre à Nantes en perdant un zéro, en gagnant un zéro, alors que tu méritais pas. Donc ça s'équilibre au final.
C'est sur la ligne Fogotro qui dit c'est pas de sa faute, c'est dans la première demi-heure, Lyon met pas l'intensité qu'il doit mettre. Sauf qu'un entraîneur, comme disait Coach Courbis, un entraîneur, c'est être entraînant. D'entrée, il doit mentaliser les gars.
Il n'y a pas que ça. Pour
mais
moi,
ça compte énormément aussi, l'aspect mental, la gestion émotionnelle d'un tel rendez-vous. Il a échoué encore une fois, Elton.
Nico, pour moi, il y a un problème plus global et plus ça va, moi, plus comment ça a commence à m'agacer. Il y a un problème, notamment dans la préparation du côté de l'Olympique Lyonnais. Et quand je dis préparation, j'englobe.
Et ça appartient à qui la préparation ?
Non, j'englobe pas seulement l'entraîneur. J'englobe la direction sportive. Ce que je veux dire par là, à un moment donné, va falloir arrêter avec la culture du petit poussé du côté de l'Olympique Lyonnais. Quand tu me cites Mathieu Louis-Jean qui dit, on avait prévisionné pour l'Europa League. Bah, moi, je suis atterri parce que quand t'es l'Olympique Lyonnais, quand tu nous assènes le fait que, économiquement parlant, la Ligue des Champions, c'est important pour toi, je vais te dire, dans tout le vestiaire, ils doivent être au courant. 21h. Groupama,
Groupama Stadium.
Nico, le problème, c'est qu'il y a une culture du petit poussé et il y a relativité. Je vais te dire quelque chose. À l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, une victoire, c'est un bonus. C'est pas une nécessité absolue. Les 20 derniers matchs de l'Olympique Lyonnais,
depuis la saison 2025-2026, tu sais c'est combien de victoires? C'est 6 victoires sur 20. 6 victoires sur 20. Et malgré ça, on entend des débats ici sur l'Olympique Lyonnais, 6 victoires sur 20. Dans d'autres clubs, c'est le feu. Et je vais même te dire, dans le rapport à la compétition, dans le rapport à l'exigence, et peut-être que ça va pas plaire, je préfère beaucoup plus qu'on fait l'Olympique de Marseille, où ils se disent, à un moment donné, les gars, on va vous mettre face à vos responsabilités, parce qu'on peut pas perdre deux matchs. Mais du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est tranquille, voilà, on a perdu, on n'est pas qualifié en Ligue des Champions. C'est pas grave.
Je pense que Michel, c'est pas, tu penses que Michel Kang, elle avait.
Michel Kang, elle était effondrée.
Mais les images, là, tu penses qu'elle était, elle avait prévu, comme moitié du genre,
il y a le plan, justement, sur l'appel phare. Elle avait des têtes. Elle s'est dit, putain, j'ai 50 millions dans la poche qui vont peut-être sortir. Là. Mais Elton, il faut que je vende ma maison, ma bagnole.
Mais ils ont prévisionné pour l'Europa League.
Mais c'est logique, Elton. Le 27 août, l'année dernière, même date, même heure, qu'est-ce qu'on disait de l'Olympique Lyonnais? On parlait de maintien, on n'avait aucune attente. Mais donc, à un moment donné, cette saison qu'on vient de me dire dans l'organigramme qu'ils ont prévisionné sur la saison par rapport à l'Europa League, mais ça me paraît logique. Adam, bien sûr qu'une fois que t'as les points, tu peux faire mieux. Mais moi, j'oublie pas d'où il vient.
Adam, combien de temps on aura encore ce discours de miraculé?
Non, c'est terminé.
Jusqu'en 2028, c'est quoi? On arrête quand?
C'est pas terminé parce que
je ne suis pas.
C'est
oui, mais ils ont recruté aussi. Mais non, ils ont recruté quand même, Walid.
Malik Fofana va sortir à cause de ce
match. Ils ont recruté Duranville.
D'accord, mais c'est des cons.
Qu'est-ce que tu veux faire d'autre?
Non, mais ce que je veux te dire, c'est que ce match-là, les conséquences de ce match-là, c'est que déjà, même mentalement, t'imagines que pendant toute la saison, t'as surperformé, t'as eu 3 pénaltys pour te qualifier en Ligue des Champions contre 2 équipes qui n'avaient plus rien à jouer en fin de saison, plus le Fener où tu avais une possibilité à la maison, tu vas devoir repartir pendant toute une saison là, mentalement, avec le coach. Attention, hein, parce que voilà, on va pas donner des indiscrétions, mais tu sais, entre le coach, les joueurs, il y a un moment quand t'as plusieurs rendez-vous, Manchester United, Saint-Etienne, Celta Vigo,
Monaco,
Lens, Monaco, Toulouse, je vais pas tous les citer. Bah il y a un moment, il y a peut-être une confiance qui s'effrite entre les joueurs et le coach. Mais des deux côtés, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, le coach, comme t'as dit, il peut être trahi par certains joueurs qui le crèvent. Et puis, les joueurs, ils peuvent se dire, parce que, tu sais, dans le football, c'est la culture de l'excuse. C'est pas ma faute. C'est la faute du coach. C'est la faute des DS.
Jamais de ta faute.
C'est jamais de ta faute. Donc, il y a un moment, les mecs, ils vont tous se regarder et repartir sur une saison comme ça au combat. Mais mon pote, mais sincèrement, mais moi, je suis inquiet, moi. Moi, je suis inquiet mentalement.
Et même pour l'avenir de Paulo Fonseca,
il en prendra l'année prochaine. Parce que Fonseca reste un super coach. Mais à un moment donné, il faut le montrer dans ce type de match. C'est bien beau à 20h45 sur Ligue 1 Plus, la masterclass, etc. Super, la possession défensive, le carré Tolisso qui arrive dans la surface de réparation. C'est génial ce qu'il fait avec deux bouts de bois. C'est incroyable. Ouais, mais les matchs mainstream, les matchs qui te font rebasculer. Parce qu'il faut pas oublier que Fonseca, il suroptimise l'année dernière. Mais Adem, il remplace Pierre Sage 4e en janvier, hein. Et qu'il fait une deuxième partie de saison où il pète les plombs sur un arbitre, il prend 9 mois, et que derrière le sprint final entre Saint-Etienne, etc., avec une équipe où il a Ryan Cherki, Miko Tadze, Veretout, Lacazette, je sais pas qui, je te le dis, il est responsable. Enfin, il y a Textor qui est le fou du bus, mais il est quand même en grande partie dans l'histoire, en fait, hein, parce que si à ce moment-là, il y a Ligue des Champions, parce qu'il est dans la course à la Ligue des Champions, avec cette équipe, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc, il y a un moment, l'histoire de, à chaque fois, on protège Fonseca, j'ai entendu Flo hier, toi, la même chose, etc. Faut arrêter, les gars.
Mon objectif, c'est pas de protéger Fonseca, mais c'est plutôt de responsabiliser les joueurs, parce que j'ai l'impression qu'on parle 90% du coach, 10% des joueurs. Et à un moment donné, le coach, il peut pas aller sur le terrain, il peut pas mettre la motivation en vie. Par contre, avec ce que tu me dis là, on comprend peut-être un peu mieux.
Ouais, mais on va, ok, super.
Je responsabilise, gars, moi, encore une fois, tout le club. Je responsabilise tout le club, à savoir arrêter avec cette culture de l'alibi, cette culture du petit poucet.
Ludovic est avec nous, 32-16, supporter de l'OL. Salut Ludovic, merci de ta patience.
Ouais, vous êtes chaud, les gars.
Voilà, c'est chaud, j'avoue, là, c'est balèze.
Voilà.
Remets un peu de calme et pose tes arguments, moi, cher Ludovic. Fonseca est-il le grand responsable de cette nouvelle déception?
Alors, je vais prendre un shaker de ce que vous avez dit et je vais sortir du oui et du non, mais beaucoup de oui. Dans la mesure où certes ce sont les joueurs qui sont sur le terrain et qui manquent d'intensité hier comme ils l'ont fait contre Lens, comme ils l'ont fait contre le Celta, enfin vous avez sorti plein d'exemples, mais ce manque d'intensité vient pour moi de la préparation du match et de tout ce que engendre Fonseca. C'est-à-dire que Fonseca aujourd'hui c'est un entraîneur qui est borné, qui ne reconnaît pas ses erreurs, qui accumule mauvais casting sur mauvais casting. AMN hier, on peut dire Aquacou contre Manchester United et contre l'AS Saint-Etienne. Voilà, qui ne reconnaît en plus jamais ses erreurs. Et après, je vais prendre un autre exemple qui engendre aussi certainement de l'excitation, parce que on peut parler de ce qu'a fait son entraîneur des gardiens en fin de match hier soir. Donc je pense que ça aussi, ça, d'ailleurs, il mériterait une sanction exemplaire. Voilà, tout ça engendre qu'aujourd'hui, pour moi, Fonseca, on arrive au bout du truc. Aujourd'hui, il nous doit 40 millions d'euros. Certes, alors moi j'en ai marre maintenant.
Les sacrées dettes.
ouais, c'est une grosse dette là.
Vas-y Ludovic,
j'ai pas été jusque là quand même.
J'en ai marre d'entendre. Voilà, maintenant on a passé le truc de il y a un an, on devait être relégués, etc. On a fait une super saison, on était aux portes de la Ligue des Champions. Mais alors, pour en revenir à Fonseca, aujourd'hui Fonseca, c'est le seul entraîneur olympien, enfin lyonnais, qui a perdu contre le Fenerbahçe. C'est le seul entraîneur, entre guillemets, français qui a perdu en barrage contre le Fenerbahçe. Enfin, je veux dire, on peut les accumuler. Donc, on peut dire que c'est un très bon entraîneur, c'est un très bon tacticien, tout ce que vous voulez. Il a fait du très bon travail, etc. Mais au bout d'un moment, on arrive au bout du truc. Et c'est plus possible et on peut plus jouer. Je sais plus qui c'est qui disait tout à l'heure qu'au bout d'un moment, la corde, elle va péter entre les joueurs et l'entraîneur.
Walid.
C'est Walid.
Voilà, Walid. Mais au bout d'un moment, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va continuer à être entêté dans ses choix. Il va continuer à faire des mauvais choix. Hier, effectivement, on recrute des joueurs pour jouer la Ligue 1, mais pour jouer la Champions League. Et on met sur le terrain des joueurs qui sont potentiellement en partance. Donc comment voulez-vous que quelque part, derrière, on amène un groupe vers un objectif commun? Et concernant l'histoire du budget, oui, effectivement, parce que j'échange et je passe parfois sur avec BFM Lyon, oui, l'Olympique Lyonnais avait effectivement budgété l'Europa League, mais là, en revanche, on peut pas en vouloir aux dirigeants, vu la situation dans laquelle, de faire ça, alors que pendant des années, on avait des présidents de Ligue 1 qui budgétaient une potentielle qualification en Champions League. Donc là-dessus, on peut pas leur reprocher.
Mais attention, Ludovic. Donc l'Olympique Lyonnais, dans un contexte économique très compliqué, hors Ligue des Champions, parce qu'ils étaient jusque-là dans les tours préliminaires, a donc fait 6 recrues. On est d'accord?
Oui, absolument.
Donc hier soir, et je dis bien hier soir, t'as une recrue qui démarre. Donc moi, je suis Michel Kang. J'ai investi de l'argent cet été, en sachant que j'aurais pas pour l'instant la Ligue des Champions, et je vois une recrue sur le match le plus important de ta saison. Je suis pas en droit de demander des comptes le lendemain de l'élimination.
Mais revient à ce que je te dis.
Bah voilà, merci.
Ça revient à ce que je te dis, c'est-à-dire que hier, t'as pas impliqué des mecs qui auraient potentiellement dû être impliqués. Et ça, c'est pas normal. Et tu prends, alors on a loué ce qui s'est passé ce week-end. Moi, le premier, parce que j'y croyais pas. Je pensais qu'on allait se prendre une danse à Toulouse. Mais Toulouse, à côté de ça, était tellement faible qu'on s'en est bien sorti. Mais quand tu vois ce que fait, comment il s'appelle le joueur à droite, là, qui doit jouer à la place d'AMN. Voilà, merci. Hier, il doit être sur le terrain, par exemple. La nonchalance de Ashley Maitland-Niles, plus personne la supporte. Alors effectivement, il fait la passe décisive sur Fofana.
C'est super, le symbole de Maitland-Niles, c'est-à-dire qu'il te coûte deux buts, il t'en ramène un.
C'est ça, exactement. Mais
corner, à côté,
comme il a fait également en championnat, mais en Coupe d'Europe contre le Sparta.
Okay.
Mais c'est Fonseca aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé au bout du truc. Et de toute manière, je pense, hormis, alors gros revirement d'ici décembre. Qu'au bout d'un moment ça va péter.
Non, mais le gros problème avec Fonseca, c'est comme Mike Maignan avec l'équipe de France, c'est que tu n'as pas mieux sur le marché aujourd'hui.
Qui est assez fort pour le remettre en question, en fait, le mettre face à ses résultats.
Bah normalement ce serait Mathieu Lujan.
Oui,
mais tu penses qu'il est content Mathieu Lujan?
Je me pose des questions.
Moi je pense que bon.
Ludovic, merci d'avoir fait le 32-16. Très bonne
tu serais légitime de ne pas être content.
Toi aussi, à très vite sur RMC. Dans son malheur, Lyon va quand même devrait récupérer 5 millions d'euros du transfert de Barcola à Liverpool. 3,5% du montant du transfert formé à Lyon, vous le savez. La prime qui revient au club formateur. On va parler de Barcola dans un instant. Entre 140 et 150 millions d'euros selon l'information. Accord sur le point d'être trouvé entre les deux clubs français et anglais, puis quelques éléments marseillais aussi qu'on va donner concernant la fin de Mercato. Bruno Genesio est très inquiet, de plus en plus. C'est marrant, comme s'il n'avait pas été prévenu. On en parle dans un instant ensemble avec Elton Mokolo, Adem Djouadi et Walid Acharchour. Les Bleus en basket mènent de 19 points face à la Slovénie, c'est la mi-temps, et 0-0 pour l'instant en Liga entre le Barça et Bilbao. Reste avec nous, RMC 21h27, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Walid Acharchour, Elton Mokolo et Adem Djouadi. 21h30, on est là jusqu'à 22h. L'After prendra le relais, bien sûr, ce soir avec Fabrice Hawkins pour une grosse page Mercato à venir. Maxime Chano et Kevin Diaz. Tiens, avant de parler de Barcola, son départ à Liverpool, faut-il le remplacer? Quelques infos marseillaises, quelques confirmations, surtout marseillaises, qui nous viennent de notre correspondant et puis de Fabrice Hawkins notamment. Genesio inquiet, de plus en plus évidemment. Il comprend que Paixão va partir. C'est pas encore fait, bien sûr. On attend 40 millions d'euros côté marseillais. Il comprend aussi qu'il faut vendre 4 joueurs d'ici la fin du mercato.
Il l'a dit au micro de Ligue 1 Plus la semaine dernière.
Voilà. Et encore, il a dit 3-4 joueurs, ouais. 4 joueurs, ouais. Qu'on confirme ce soir. Et il faut vendre, bien sûr, ces joueurs-là avant de pouvoir acheter. Sauf qu'il y a des joueurs qui, eux, n'attendent pas et finissent par s'engager, notamment.
C'est ce qu'on a dit toute la semaine dernière, c'est que le problème.
Pas de boulot, justement, tu vois.
Vendre, déjà, ça va être compliqué. Parce qu'il faut trouver des bonnes destinations. Pour Balerdi, pour Timber, il faut satisfaire les agents.
Hoiberg, éventuellement Aguerd.
Hoiberg et Aguerd, ils ont refusé quand même la Real Sociedad des Newcastle. Donc ça montre que aujourd'hui.
Ils sont bien là, Marseille.
C'est les joueurs qui décident, ils ont des contrats. Et si tu ne sors pas minimum 3 joueurs, 3 ou 4 joueurs, tu ne peux pas inscrire un joueur. Donc c'est ça en fait le pire. Et moi, ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est que bien évidemment que Greg Lorenzi et Genesio subissent cette situation par rapport à l'ancienne direction et par rapport à ce qui s'est passé. Mais la réalité, c'est que moi, je pense qu'il y a un rapport de force avec eux et Macourt depuis le début du mercato et qu'ils pensaient que Macourt allait lâcher.
Enfin, le rapport de force, il est déséquilibré.
Mais il est déséquilibré, mais ils ont essayé tant bien que mal.
Est-ce qu'ils ont été naïfs, vous croyez?
Moi, je pense qu'on parlera de la gestion du mercato à la fin du mercato, mais aujourd'hui se retrouver au 27 août surpris que en fait Paixão il va sortir. Ouais, mais si tu n'as pas réussi à sortir Højbjerg et Aguerd avec le salaire Paixão et la valeur marchande Paixão, il devient en fait la priorité sur le marché des transferts pour l'Olympique de Marseille, parce que Macourt ferme le robinet. Et je pense qu'ils n'ont pas peut-être pris conscience de la volonté de Macourt, que Macourt il se dit 7e ou 8e cette saison, c'est pas mon problème, je veux plus dépenser un euro et je veux plus être en difficulté financière. Et le problème, c'est que si Lorenzi et Genesio l'avaient peut-être compris un peu plus tôt en se disant bon bah peut-être qu'avec la fin de mercato ils vont rester, au final on n'aura peut-être pas de recrues mais ces joueurs-là vont rester. Le problème, c'est que si à la fin du mercato, ils sortent, ou qu'il y en a deux qui sortent, comme Paixão, Timber et pas Balerdi, là je suis en train de spéculer, et que derrière tu ne peux pas inscrire de joueurs, mais là la situation elle est dramatique. Et là t'en viens à te dire, mais pourquoi vous n'avez pas vendu tout le monde il y a 2 semaines, 3 semaines en essayant de satisfaire Macourt pour après refaire 3-4 prêts, un Todibo, un Bo, et en ayant une fraîcheur en rafraîchissant l'effectif. Parce et là en fait tu te retrouves avec cette guerre là, parce qu'on l'a bien compris hein, depuis le capitanat de Højbjerg contre l'Atlético, ça s'est tendu et qu'il y avait véritablement deux camps. Ben à la fin, si t'es le grand perdant ou Paixão sort sans remplaçant, je l'ai répété, mais c'est et pour en plus pour 30 millions d'euros, c'est-à-dire en étant à jeu sur Paixão, vu le marché des ailiers, mais là c'est dramatique.
Non mais voyez, le nœud de l'histoire, il est simple, c'est que t'arrives avec le cahier des charges quand tu t'appelles Lorenzi, tu dois vendre juin, juillet. Et à partir du mois d'août, ah ouais, c'est comme ça, c'est pas assez satisfaisant. Et ben on va passer à une autre étape où là justement bah va y avoir beaucoup plus d'interventions extérieures. T'as parlé d'Unixport et là forcément bah la stabilité de l'effectif marseillais, ça ne plaît pas à Macourt. Il faut beaucoup plus d'instabilité. Et l'instabilité, ça se caractérise par quoi? Par des ventes.
Et surtout,
les ventes, elles arrivent pas.
Macourt peut aussi se dire à un moment, attendez les gars, moi je vous ai demandé de vendre, vous faites quoi? Vous faites semblant? Vous répondez pas aux appels? Qu'est-ce qui se passe là en fait? Nous, il faut que l'OM vende. Et donc, à un moment donné, bah, tu te retrouves dans une situation où ça devient très très tendu. Et le problème, c'est que le compteur, il tourne en fait,
moi,
Nico.
Il reste 5 jours.
Et tu peux te retrouver avec Mahdi au poste d'ailier gauche, avec Harit ou Abdallah de l'autre côté.
Avec un Delange dans le but dont voilà, on ne sait pas encore voilà, réellement ce qu'il vaut.
Tu n'as même pas remplacé Greenwood. C'est-à-dire tu pourrais ne pas remplacer Pachao parce que. Et puis en plus, toutes les pistes de prêt Ligue 1 qu'a Lorenzi depuis un mois. En fait, les mecs, ils se disent, OK, très bien, on attend Marseille. Mais il y a un moment, faut qu'on trouve un club, les gars, nous, hein. Donc, en fait, il y a un moment, Todibo, il y a un moment, ces mecs-là, Gbo,
c'est le cas d'Atubolu, justement, le gardien qui était intéressé par Marseille, qui finalement va quitter Fribourg pour aller à Francfort.
Bah, un moment,
c'est une opportunité ratée pour l'Olympique de Marseille. Il reste 5 jours.
Aston Villa qui a réactivé pour Todibo, visiblement, pour pallier la perte de Kounsa. Je veux dire, le compteur, il tourne.
Mais je suis d'accord avec Nico, la naïveté, elle est stupéfiante. À un moment donné, t'avais Agard qui devait sortir, Heubert qui devait sortir, tu récupères des salaires, tu récupères des sous, ils sortent pas.
Mais comment tu forces ces mecs-là à partir? Malheureusement, comme a dit Wally, ils ont un contrat.
Non mais tu es Greg Lorenzi, tu sais que ces joueurs ne sortent pas, l'argent ne rentre pas, il va falloir aller le chercher autre part. Donc en fait, ils se sont dit, bon, ça va passer, le temps passe, sauf que Macourt, il a rappelé, il leur a dit, non, trouvez-moi l'argent que je veux, si c'est pas les deux-là qui sortent, c'est les deux de devant. Et en fait, il y a de l'argent à trouver à Marseille, et si c'est Pechao, bah, comme tu l'as dit, Macourt, il n'en a
moi,
plus rien à faire
de
Nico, sportif.
De ces méthodes-là, et toi aussi, tu vas nous le rappeler, mais de mettre sur le côté les joueurs, etc., le lore.
Mais non, c'est pas la solution, jamais.
Je suis pas fan. Mais faut pas aller dans l'autre sens, parce que la réalité, c'est que si Genesio, il dit à Heubert, t'inquiète pas, tu pars pas, etc., moi, tu vas jouer dans mon équipe, j'ai besoin de toi, etc.
Ah, oui, oui.
Et de l'autre côté, dans les bureaux, ils disent, non, mais en fait, les gars, les 12 millions de Newcastle, on en a besoin parce qu'ils coûtent 500 bâtons par mois. En fait, tu peux pas avoir un décalage avec le sportif et l'économique aussi important. Surtout que quand t'es arrivé, même si je pense que Genesio, tu sais, il y a que quand t'arrives, il y a que quand tu découvres les placards que finalement tu te rends compte de la situation. Parce que je pense qu'ils lui ont dit ça pue, mais ils pensaient pas autant. Mais il y a un moment, tu dois, quand t'es arrivé à l'Olympique de Marseille, ou sinon tu pars, sinon tu démissionnes. Sinon, à la fin, si Pachao il part et qu'on lui avait dit que Pachao allait rester,
c'est le joueur qui veut garder en priorité, évidemment. Il veut des garanties sportives qu'il n'a toujours pas.
Oui, mais Nico, est-ce que tu comprends qu'il y a un moment, si tu dis à ces joueurs-là, Heubert, Pachao, moi je compte sur toi et tout, etc., et que le club là-haut, celui qui a mis les ronds, ou celui qui...
je rappelle, a mis 120 millions d'euros pour éponger encore la saison dernière.
Exactement.
Sa poche, exactement. 120 millions d'euros.
Il te dit, non, depuis un mois, il faut vendre les mecs. Tout le monde est transférable. Et tu ne l'as pas fait, ben, y a un moment...
La Coupe peut les sanctionner aussi, ces mecs-là.
Hein? Mais oui,
Côte aussi peut dire, les gars, vous n'avez pas fait ce que je voulais.
Ah, mais après, attention,
ce que j'exigeais.
Nico, c'est là où je vais venir au secours de Genesio. Là, t'as deux visions qui s'opposent.
Moi, je suis responsable.
Non, mais attention, parce que là, t'as deux visions qui s'opposent. C'est que Bruno Genesio, cette semaine de préparation, début de Ligue 1, lui, il a une vision sportive où il doit concerner, il doit impliquer des joueurs parce que, pour première journée contre Strasbourg, ça se passe mal. C'est pour Bruno Genesio. C'est pas pour Franck Macourt. Mais toi aussi, une vision économique où, en gros, on dit, faut vendre.
Ouais, mais il dit quand même au micro de Ligue 1 Plus qu'il y a 4-5 joueurs à vendre, donc il envoie ceci. Signal là.
Bien sûr.
D'accord. Et là, on me dit, les insiders, il est inquiet, il est surpris. Il y a un moment.
Donc, il y croyait pas.
Là, enfin, soit il y croyait pas, soit il pensait qu'il allait avoir un rapport de force, qu'ils allaient gagner sportivement. Et alors que finalement, non, en jouant avec la tête de Macourt. Et la réalité, c'est quoi? Si c'est pour gagner 4-0 contre Strasbourg.
Mm-hmm.
Ok, très bien. Avec ton effectif que t'as intégré et tout, très belle gestion, très belle préparation.
Bien sûr.
Mais que derrière, par contre, t'as pas ressorti les mecs et que les mecs sortent dans les trois derniers jours.
Je te dis, c'est
que tu n'as pas réussi. Et que derrière, tu n'as pas réussi. Moi, je préfère que les deux premiers matchs, Strasbourg et Monaco, bah, peut-être, tu les fasses avec un tel, enfin, avec Abdallah ou avec Mahdi ou ce que tu veux. Mais par contre, que tu réussisses ta fin de mercato pour que toute la saison en Europa League et en Ligue 1, tu limites la casse.
Ça, oui.
Donc, on fera les bilans à la fin. Mais je trouve qu'il y a quand même, dans cette histoire-là, deux, trois choses qui me si je répète, Lorenzi et Genesio subissent la situation, une situation qui est catastrophique, qui est très compliquée. Mais dans cette situation compliquée, je trouve qu'ils ont, enfin, là, j'ai le sentiment qu'ils ont fait un calcul en se disant, allez, ça va passer, les gars, ça va passer. Ouais, mais non, bah t'es tombé sur un mec qui ne veut pas que ça passe. Bah,
c'est un mec, c'est une révolution, parce que pour la première fois depuis 2016, là, il est niveau durcissement, c'est le durcissement pour moi.
Parce que on avait déjà vu Nicole Matt tous les ans.
Non mais Nico, on avait déjà eu l'interview de Benatia du côté de l'équipe quand Macourt lui fait comprendre. Enfin, en fait, t'as pas compris la situation.
Bah, c'est en janvier, l'histoire.
Bah voilà, c'est en janvier. Et là,
avec Bapola et avec Vaz.
Et là, ça s'est accentué, à savoir que Macourt, pour la première fois, là, il est dans un calcul où en fait, quitte à sacrifier le sportif, gars, sur l'économique, je veux me retrouver.
Mais même si tu vends, ça c'est les infos de Brice Hawkins ce soir. Il nous dit les opérations que tu pourras faire, les arrivées que tu pourras faire, c'est soit des prépayants, évidemment, soit des recrutements autour de 3-4 millions d'euros maximum. D'accord ? Avec attention particulière apportée à la masse salariale. Surtout, ne pas dépasser les 150 000 euros brut par mois maximum pour une nouvelle recrue. Ah
oui. Parce que là, si tu perds Guri ou Pichao devant.
Je pense que Greg Lorenzi est un bon directeur sportif. Hein. Il a sûrement des coups d'avance aussi. Il a 3-4 profils par poste à remplacer, à suppléer. Mais il faut être assez créatif, inventif et exceptionnel. Là,
non, mais 3, 4...
en 2-3 jours.
Non, mais là, il a encore des pistes, mais par exemple,
2-3 jours,
un go qui veut là, pour remplacer Pachao, il va te faire un prêt à 2 millions d'euros.
Avec obligation
avec
d'achat.
Avec obligation pour l'année d'après parce qu'il a un an de la fin de son contrat. S'ils veulent le petit Versini là, de Pau, ça va être aussi un coût entre 2 et 3 millions d'euros. Voilà, ça va être ce type de coût-là aujourd'hui. Hein,
3-4 millions d'euros, mais t'as un prêt. Tu regardes Openda à Lyon, c'est 3 millions d'euros l'année, plus le salaire à prendre en compte.
Payant,
et on avait vu qu'au début du mercato, c'était pas plus de 100 000 ou 150 000 par mois qu'ils ont.
Oui.
Donc aujourd'hui, tu perds Pechao, tu perds Guri, tu te retrouves avec Mopé en pointe pour toute la saison, un petit jeune que tu essaies de relancer et la Ligue Europa sacrifiée. Ouais. Parce qu'à l'heure actuelle, l'effectif qu'ils ont, ils n'ont pas les armes pour jouer deux fois par semaine. Bah, donc moi, je pense que là, on se dirige, attention à pas faire une Nice. Parce que avec l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille, tous les pions vont être mis sur la Ligue 1 pour finir dans le top 4, top 5, voire top 6. En fonction de la physionomie du championnat, moi je pense qu'à l'heure actuelle, la Ligue Europa, ça peut être un fiasco.
Oui, mais ça oui, ça après on aura le temps d'en parler. Mais la réalité, c'est que comment va se terminer ce mercato. Balerdi, il y a pas énormément d'offres.
Finalement, exactement.
Moi, je pense qu'il a encore une cote en Italie, dans certains bons clubs italiens. Mais ça va être encore du prêt. Tu vois, ça va être encore du prêt, option d'achat obligatoire. Il va avoir encore des montages à Timber. On parle à Crystal Palace. Il voulait pas aller à Porto. Mais aujourd'hui, il y a des histoires avec Unixport, avec son agent, avec, bref, ça va être un bourbier, même de sortir les mecs sur la fin de mercato. On va voir, ce qui va se passer, hein. Et je vais même te dire, tu parlais de Guiri. Moi, je pense que c'est même Guiri qui a le plus de,
enfin. La plus grosse valeur marchande?
Non, qui a le plus de prétendants.
Je pense.
Parce qu'il est dans des shortlists au poste de numéro 9, dans des clubs intéressants. Villarreal, Côme, même en Angleterre, il a des trucs.
T'as parlé de Balerdi, on se rappelle la saison dernière, à 50 millions d'euros, on dit on vend pas à Newcastle. Je sais pas si vous vous rappelez quand même.
Il y avait des sommes
de Balerdi, on disait pas moins de 70-80. Ouais. Et cette année, t'arrives même pas à le sortir à 20. La gestion, quand même, elle est catastrophique. Et à un moment donné, si t'en es là aujourd'hui, avec toutes les directions qui sont passées, qu'à chaque fois les mêmes problèmes sont répétés, oui, Macourt, il met au pot tout le temps, mais il fait tout le temps les mêmes erreurs. Je suis désolé, quand là aussi tu vas mandater une société d'agents pour faire sortir les joueurs qui s'entendent pas avec les agents des joueurs et que du coup, il y a quiproquo et que les joueurs sortent pas. À un moment donné, l'argent, il est mis n'importe comment, n'importe où. T'as l'impression que Greg Lorenzi aujourd'hui, il est là, mais qu'il travaille pas avec Macourt, que les deux parlent pas de la même langue. Donc, au final, franchement, j'ai hâte de voir comment ça va finir parce que j'arrive pas à voir ça.
Il reste 5 jours. On sera là. On va accompagner cette fin de mercato marseillaise et pas que, hein, d'ici le 1er septembre, bien sûr. Tiens, le direct, c'est le basket. Ça a bien sûr repris. Troisième carton, France-Slovénie. Masculine. Bon, avec Arnaud Valadon. Arnaud Valadon, à l'accord Arena. Ah, ça a sauté. 56-38 pour l'équipe de France, un match de qualif pour la Coupe du Monde. On retrouvera Arnaud dans un instant. Dans un instant, on parle de Barcola, Liverpool, direction les Reds et Anfield pour lui, pour un montant entre 140 et 150 millions d'euros. Et puis quelques infos mercato à vous donner. Vous restez avec nous. Génération After sur RMC. Merci d'être là. C'est encore la rentrée. 21h43, à tout de suite.
RMC, 20h-22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kelton Mokolo, Adem Djouadi et Walid Acharchour, dernier quart d'heure de Génération After, 1-0 pour le Barça face à Bilbao, un but de Rafinha.
Le numéro 9 du Barça.
Ce sera lui cette saison ?
Pour l'instant, c'est bien parti.
Ce sera pas Ruben Alvarez, a priori. Hein.
A priori, non, parce que dialogue rompu entre Atlético et le Barça.
Oui, exactement, et qui n'était pas à l'entraînement ce matin également, comme il n'était pas hier avec les Colchoneros, Ruben Alvarez, c'est le gros dossier en Espagne.
La spin d'Alvarez,
bien sûr.
Il va finir en Angleterre, lui.
Non, mais là, il y a que Arsenal qui peut le sortir en fait aujourd'hui.
Le spin d'Alvarez sur les premiers mois, là, ça va être intéressant.
Mais après, Atlético, ils ont été dans une guerre d'ego, il va falloir assumer les conséquences.
Ouais.
Ouais, enfin, c'est pas que de la faute des dirigeants d'Atlético, mon cher.
Non, oui.
Lui, il était très mauvais sur la communication. Le mec qui dit en mode vision, je vais aller au Barça. Garçon, ouais, c'est pas, je sais pas qui te conseille, mais
surtout le discours.
Mais réfléchis un peu à qui t'entoure là, quand même.
C'est pas le premier, c'est pas le dernier.
Ouais, le discours qu'il a pour un joueur là, 8 buts en Liga, franchement, on en fait beaucoup avec lui, je trouve.
Je rappelle aussi Florentino qui a semé la pagaille hein, en début d'année, hein, et avec le communiqué du Real qui dit nous avons proposé à ce jour 150 millions d'euros pour attirer Juan Alvarez.
Après,
on a reçu une fin de non-recevoir. Après la saison qu'il fait, ouais.
8 buts en Liga, je pense, dans une équipe contre, comme le Barça.
Oui, ça peut bon.
Oui, mais tu vas pas tourner qu'avec Rafinha. Hein, non, oui, t'as raison.
C'est pas le même football. C'est quand on dit 8 buts à
il sera servi.
J'aimerais bien voir le nombre d'attaquants.
Et il y a aussi 10 buts en Ligue des Champions aussi.
Avec l'Atlético.
Mais là, on parle à 150 millions d'euros.
Oui,
là.
D'accord. Enfin, aujourd'hui,
c'est-à-dire on
va dire que quand il arrive, c'est à 140 millions d'euros à Chelsea.
Diomandé.
325 millions d'euros Diomandé.
Oui.
Supporter parisien.
Et pris.
Êtes-vous triste de voir Bradley Barcola vous quitter? Vous êtes habitué, vous le savez, c'est inexorable. Il va rejoindre Liverpool. Accord en passe d'être trouvé. Je le disais, ça devrait situer entre 140 et 150 millions d'euros, c'est toujours une dinguerie aussi, toujours de penser à ça. On va pas faire le débat, est-ce que ça allait vous ou pas? C'est la loi du marché aujourd'hui, la concurrence, tout ça. Liverpool qui a besoin absolument d'un profil comme celui de Barcola, c'est ainsi. Je rappelle quand même, en 3 saisons à Paris, Barcola, c'est 152 matchs, 39 buts, 37 passes décisives. Saison passée, hein, 49 matchs avec le PSG, apparition en tout cas, 13 buts, 7 passes pour lui. Il voulait partir, on va pas réécrire l'histoire, on sait pourquoi. Il s'estime pas comme un titulaire dans l'esprit de Luis Enrique. Vous nous appelez au 32-16, bien sûr, supporter parisien. Les gars, Barcola qui part, est-ce pas un coup dur, mais est-ce un vrai trou dans la raquette de Luis Enrique quand même malgré tout?
Oui, parce que je pense que y avait le profil de Bradley Barcola était un profil qui était quand même très important pour le PSG, pas forcément dans un rôle de titulaire indiscutable, mais en tant que joueur numéro 12, ce qui n'est pas infamant, parce que c'était aussi un moyen de pression pour Varachea, parce que si on parle de son début de saison, il n'est pas réussi, encore une sortie contre Rennes à la 45e minute, et c'est un joueur qui était amené à grandir, qui était amené à progresser, mais aujourd'hui il ne veut plus de ce rôle. Maintenant, son départ ouvre d'autres possibilités, notamment pour Götze, d'autres perspectives, mais de là à voir un joueur meilleur que Barcola pour justement mettre la pression avec Varachea, je suis pas convaincu.
Ouais, c'est un profil très rare, on l'a déjà dit, hein, c'est un profil très très rare dans le football aujourd'hui. De toute façon, on regarde au poste 2.
Monsieur, j'ai l'impression que les supporters parisiens sont pas forcément tristes de voir partir.
Oui, non,
beaucoup de messages pour dire merci Bradley, 140, c'est merveilleux pour nous.
Après, bien évidemment, aujourd'hui,
le changement d'affilée, c'est pas un départ qui va les attrister, je pense.
Ah, c'est ça. Non, mais aujourd'hui, la somme, elle est importante, et le PSG nous a pas habitués à sortir des sommes comme ça sur des joueurs, hormis peut-être Neymar qui est parti à Al-Hilal, mais globalement.
100 millions.
Voilà, globalement, pour un autre club européen, sortir du Paris Saint-Germain, c'est pas simple. Et surtout encore plus à ce prix-là. Non, pour revenir sur le profil du joueur, c'est un profil qui est très très rare et qui est unique dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Un joueur qui a des jambes, un joueur qui a des courses sans le ballon.
Oui.
Donc,
t'en as un autre comme ça ou pas là?
Non, il y en a pas. De toute façon, tu regardes, tu vas sur Transfermarkt, tu tapes Ailier gauche.
Michael Gott, c'est pas du tout ça.
Voilà, il y a pas de ce profil. Maintenant, ça dépend quel Bradley Barcola tu as. Si t'as le Bradley Barcola d'avant Chelsea, sa blessure, oui, très très bien. Et c'était un joueur qui était très important. Si t'as celui qui est revenu de blessure, entraînant un petit peu la patte, contre l'Orient, la sortie de banc, contre le Bayern Munich, ou même contre Arsenal, tu peux quand même t'en sortir. Tu peux bien dormir la nuit. Mais oui, bien évidemment que ça reste une PR, c'est un joueur qui a une grosse valeur, c'est un joueur qui a 23 ans, où tu te dis que s'il a le déclic, si devant le but, il devient animal, s'il a le déclic d'un Ousmane Dembélé, par exemple, qu'il a eu à 28 ans, c'est top 3, top 4 aujourd'hui dans le football actuel. Mais pour l'instant, il l'a pas. Après, il y a un choix aussi de sa part. Luis Enrique l'a toujours dit, si tu n'es plus en phase avec le projet, ou si tu estimes que tu n'es plus à ta place, ou que tu mérites mieux et que tu ne peux pas avoir mieux, tu peux partir. Parce que pour moi, la deuxième partie, le deuxième tiroir, c'est quand même Bradley Barcola à Liverpool. Et Bradley Barcola à Liverpool, c'est un big défi, c'est un énorme défi, parce qu'il aura des responsabilités beaucoup plus importantes qu'au PSG, qu'il a un championnat beaucoup plus dur et beaucoup plus homogène que la Ligue 1. Et tu peux te casser les dents là-bas, et ou devenir une superstar et un joueur monstrueux.
C'est
intéressant, ça va être intéressant à suivre en tout cas.
Côté PSG, vous avez tout dit, hein, c'est une grosse perte. Il n'y a pas meilleur que lui en 12e homme aujourd'hui en Europe pour déséquilibrer une défense et tirer les blocs adverses, ça vous l'avez dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand je me place du côté du joueur, la saison dernière, j'aurais peut-être attendu un départ, parce que je pense que oui, il aurait mérité une place de titulaire, il aurait peut-être pu aller au Bayern, peut-être pu aller à Liverpool. Mais là, cette saison, j'ai un problème, parce que il a eu sa chance. Il y a un moment donné que Varaskele, il a fait un tour sur le banc. Et il y a un moment donné, Désiré Doué, il a fait un tour sur le banc. Et il n'a pas fait la différence à ces moments-là.
Il s'est blessé.
Il s'est blessé, mais il a eu les spots pour prendre la place et dire je fais partie du 11. Et il n'a jamais su monter son niveau de jeu quand on le met dans le 11 de départ. Et à chaque fois, tu te rends compte.
Sur les rentrées en fin de saison.
Parce qu'après,
il n'est plus titulaire vu que Kvara, en fait, il est monstrueux, il est insortable.
Non, mais il y a des moments où il était dans le 11 de départ sur les deux dernières saisons. Ouais. Où il ne fait pas oublier Kvara et Doué. C'est pour ça que dès qu'ils reviennent.
Double confrontation contre Chelsea, il est très fort. Il met le but très important.
Il met deux super buts aller-retour. Moi, je pense à un Désiré Doué qui revient contre Monaco, mais quand il revient, il met tout le monde d'accord.
Et c'est pour ça qu'à un moment, il n'a
jamais réussi à enlever ce chasuble numéro 12. Et arrivé à Liverpool, 150 millions d'euros. On ne va pas attendre de toi seulement que tu rentres en jeu à 70e pour étirer le bloc. On va attendre de toi, surtout dans un contexte où Mohamed Salah vient de partir, où il y a un gros manque en termes comptables, en termes de buts, en termes de passes des. Donc, qu'on le veuille ou non, les supporters vont lui mettre un peu l'étiquette du nouveau Salah, alors que c'est pas le même poté, c'est pas le même profil, c'est pas le même âge. Et moi, le fameux déclic dont on parle, pour moi, le plafond de verre, il a été touché pour Bradley Barcola. Et malheureusement, je le vois pas aller encore plus haut que ce qu'on a vu. Et ce fameux déclic-là, t'as parlé d'Ousmane Dembélé, mais techniquement, on n'est pas sur la même gamme de joueurs. Dans les petits espaces, dans le rapport au ballon, pour moi, Bradley Barcola.
C'est pas sa qualité, mais il a d'autres qualités.
Bien sûr, il a d'autres qualités, mais des qualités de rythme, bien sûr.
D'accélération.
C'est l'un des meilleurs ailiers aujourd'hui en Europe dans le football 2026. Il a une importance, mais il jouerait dans sûrement n'importe quel 11 européen, sauf malheureusement. Pour lui, celui du Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui, 150 millions d'euros, on va s'attendre à un joueur qui stat. Et Bradley Barcola ne vaut sûrement pas 150 millions d'euros.
Il a staté au PSG, quand même, le gars.
Oui, mais il va arriver en première ligue. S'il garde cette nonchalance en première ligue, il va falloir quand même qu'il profite d'une
reconstruction avec Iraola à Liverpool. Le fait qu'ils viennent de mettre 150 bâtons sur un joueur qui, pour l'instant, répond pas aux attentes, qui s'appelle Alexander Isak, qui vient encore de faire un match contre Newcastle. J'avais mal aux yeux, je me disais, mais c'est pas le même joueur, ils ont pas envoyé le bon. Vire si ça prend pas encore.
Et Kitiki va devoir revenir dans quelques mois.
Donc en fait, ils ont une attaque à 400-500 bâtons, donc il fera partie de ces.
Ah, mais il va enchaîner les matchs.
Oui, mais il fera partie de. Ce que je veux dire, c'est que si ça fonctionne pas tout de suite, il fera partie de ces joueurs avec Isak, avec Vire, avec Kitiki.
Ça marche.
Qui ont été achetés pour beaucoup d'argent. C'est pas le mec qui vient à Arsenal, par exemple, 150 millions d'euros. Ce que je veux te dire, c'est le joueur qui doit faire changer de dimension une équipe qui a déjà gagné, qui a déjà fait finale de Ligue des Champions. Là, c'est quand même différent. Maintenant, là où tu as raison, c'est qu'il aura plus de responsabilités dans la finition, qu'il va devoir devenir beaucoup plus létal. Mais moi, je trouve même dans sa mentalité, beaucoup plus tueur, un requin, un joueur qui devient méchant.
Qui traîne des
involtes. Pas le gentil désinvolte, flemmard parfois. Un jour, tu as le Bradley Barcola, incroyable. Un jour, tu as le Bradley Barcola qui a la main dans les poches. Voilà, ça va être sa marge de progression. Mais maintenant, moi, tu vois, au début, quand je disais Liverpool un peu dangereux et tout. Et avec un peu le recul, je vais quand même lui laisser le bénéfice du doute parce que moi, quand il va au PSG et qu'il est à Lyon, je dis, mais c'est un malade mental. Je dis, mais Mbappé, il joue à gauche.
Ah, mais après, attention, c'est pas les mêmes considérations.
Mais laisse-moi terminer.
Il y a un delta entre un transfert à 50 millions et un transfert à 140 millions.
Ok, très bien. Mais d'accord, ok. Mais même à l'échelle, à cette
à l'époque, 50
réduite,
millions, c'était beaucoup pour lui.
50 millions pour Barcola, où il vient de faire 6 mois avec Ryan Cherki et Lacazette. Il va dans le grand PSG, où c'est Mbappé.
Le PSG, c'est le petit.
Oui, d'accord.
Jeune.
Mais où c'est Mbappé, derrière, au PSG, il repart pour 140 millions d'euros à Liverpool. Donc rien que pour ça, vu qu'il a réussi au Paris Saint-Germain, je vais lui laisser.
Jean-Jacques,
je vais lui laisser le doute. Maintenant, il va falloir qu'il fasse violence.
Jean-Jacques, supporter du PSG, est avec nous. 32. C'est salut, Jean-Jacques.
Bonsoir, messieurs.
Bienvenue dans Génération After. On est heureux de t'accueillir avec Adem, Elton et Walid. Tu dis merci Bradley, toi, pour tout.
Je dis, la première des choses à dire, c'est merci Bradley de Ligue des Champions. Ça a été un joueur majeur. Il a en super sub, parfois en titulaire, parfois c'est lui qui nous a fait du bien quand Guevara en Ligue 1 il n'était pas trop dedans. Et il a apporté, il fait partie une partie vraiment intégrante et majeure des titres qu'on a eus. Donc la première des choses à lui dire, c'est merci pour tout ce que tu as apporté, merci pour les titres. Dommage, moi je suis parti de ceux qui disent dommage parce que tu avais le profil pour t'imposer, pour aller gratter du temps de jeu, parce que il avait quand même pas mal de temps de jeu à mon sens sur les deux dernières saisons avec le Paris Saint-Germain. Tu étais français dans la meilleure équipe française et pas loin d'être la meilleure équipe du monde, et c'est dommage que tu partes aussi.
Ah, Jean-Jacques va revenir.
On avait tout compris.
C'est bon, Jean-Jacques, vas-y, tu peux continuer, Jean-Jacques.
Non, je disais dommage que tu partes aussi tôt. J'aurais voulu qu'il reste un peu plus longtemps parce qu'il avait la place pour encore nous apporter. Mais on va lui souhaiter bonne chance pour la suite. Il va arriver dans un contexte, pour moi, qui est un peu favorable pour le Liverpool parce que c'est en pleine reconstruction, malgré les 50 patates. Et il peut remercier Isaac et Wirtz qui sont arrivés pour des sommes astronomiques aussi, qui ne sont pas imposés. Donc il y aura peut-être un petit peu de clémence pour lui aussi dans la première partie de saison et pour son arrivée. Mais ouais, moi je dis dommage parce que joueur français, club français, mais pas loin d'être la meilleure équipe du monde. C'est dommage que toi qui n'aies pas cette mentale, entre guillemets, de vouloir rester, je sais pas, 8 ans là-dedans et puis te dire voilà, mec, je suis français, je suis à Paris.
Oui, t'as raison. Ouais. Après, faut le dire, préciser, il est quand même barré par deux des meilleurs joueurs du monde. Hein.
Surtout, il a pris 2 Ligues des Champions, il a pris tous les trophées possibles. Donc, à un moment donné, dans une carrière, t'as le droit de vouloir voir autre chose, avoir un nouveau challenge. Et justement, rentrer dans cette routine où t'as déjà tout gagné, où tu gagnes très bien ta vie,
la première ligue,
une très belle ville.
Puis c'est Liverpool, voilà, c'est
un nouveau défi, mythique.
C'est chez moi, pour moi, dire ouais, il en a pris 2 et dire ouais, t'as déjà tout gagné. Et non, t'en as pris 2, prends-en 10, mec. Prends-en 10, prends-en 15, prends-en 20, prends-en 30, 40, 50, 70.
Ouais, mais tu verras que la question va se poser.
Il y a une histoire d'oseille aussi.
Tu verras que la question va se poser le jour où le Paris Saint-Germain sera éliminé en Ligue Champion. La question du renouvellement, il y aura, je pense, beaucoup de joueurs qui se diront bon, j'en ai gagné 2, ça y est, on n'a pas fait le triplet, on n'a pas fait le, je sais pas comment on dit pour 4 d'affilée, si on a 3 d'affilée, le quadruplet. Et donc, la question va se poser à un moment ou un autre. Barcola, lui, il anticipe cette question parce qu'il est malheureusement pour lui remplaçant. Il a envie de voir autre chose. Il est barré par Désiré Doué. Et en plus de ça, en équipe de France aussi, la plupart du temps, même si à la Coupe du Monde, il a gratté un petit peu de temps.
Il veut jouer à gauche aussi.
Voilà, il veut jouer à gauche. Donc à un moment donné, il a le droit de vouloir voir autre chose. Et...
Mais je suis pas sûr de ce que tu avances par rapport au renouvellement, tout ça, parce que, un, l'équipe, elle est jeune. C'est pas une équipe de mecs de 30 ans qui est cramé et qui a eu plein de campagnes et qui en a gagné 2 et qui a envie de partir après. C'est une équipe jeune. T'as le droit de pas gagner chaque année. Je pense que Luis Enrique, il a la mentale à l'espagnol. Il est resté assez longtemps dans ses clubs en tant que joueur. Et je pense que c'est une mentalité qu'il essaye de ramener à Paris.
Faut pas oublier un truc, c'est que aujourd'hui, c'est peut-être un problème, hein. Mais les mecs, la priorité, c'est pas de gagner la Ligue des Champions.
C'est quoi la priorité?
Mais la priorité, c'est d'être un joueur qui joue, d'un joueur qui est important.
Oui, mais il est pas sur la photo du Ballon d'Or, il est pas là sur la photo du
Ballon d'Or. Moi, vous pensez que parler avec des joueurs de foot, si vous pensez qu'aujourd'hui, être le 12e, le 13e, ou gagner une 3e Ligue des Champions qu'il a déjà gagné 2 fois avec le PSG, peut-être qu'il a envie de découvrir un nouveau
caisse. Il veut aussi briller individuellement.
Compliqué ce footballeur. Si ça termine 3-4ème de PL, derrière ils vont te dire je vais rejoindre une équipe.
Demande à Neymar à l'époque au Barça. Il y a un moment donné, il y a un positionnement. Il y a une grille salariale où il estime que être 11e ou 12e salaire du PSG, c'est en première ligue. S'il y a une attirance, s'il y a des clubs qui le veulent, qui le désirent, il est pas insensible à ça. Ouais. Et voilà, moi je respecte ça. Liverpool, il va pas à Louis-Fizeau, quoi.
Non, mais je veux dire que je comprends ce que dit Walid, mais encore une fois, il prend l'exemple. Enfin là, pour le coup, tu prends l'exemple de Neymar. Neymar, en termes de mentalité et de ce qu'il faut faire pour rester à haut niveau, être longtemps un joueur de foot professionnel et aller au bout de ce que tu peux faire avec tes capacités sur ta carrière, c'est pas le meilleur.
T'étais content qu'il aille au PSG, non, Neymar, non?
Non, mais oui, sur le coup, j'étais content qu'il aille au PSG. Mais moi, je suis content en tant que supporter parisien. Oui. Et mon club, je suis pas supporter de Neymar. Après, si tu me dis que j'aurais des supporters de Neymar, j'aurais dit, mec, mais t'as rien compris. Il faut que tu restes 10 piges à Barcelone et que tu fasses ta carrière dans le plus de rucs. Et je pense que du coup, en termes de mental.
Je te donne le ressenti de certains joueurs, moi.
Mais je te dis que moi, les joueurs, qui pensent comme ça, et ben pour moi ils pensent petit. C'est mon point de vue. Bon, après,
Jean-Jacques.
Merci Jean-Jacques.
C'est une vision.
Merci pour ta vision effectivement. À très vite sur RMC. Tiens, quelques infos à vous donner également. Mercato, sachez que Chelsea, City serait prêt à acheter là dans les prochaines heures Enzo Fernandez. Voilà, de Chelsea. pour 120 millions d'euros, tout simplement, après avoir lâché déjà 135 pour Yot Anderson et 100 pour Ayoub Wadi.
Un milieu tout neuf.
Un milieu
à 300 bâtons.
Exactement.
Tête, 3 fois 100.
Ouais. Mohamed Ali Chou, lui, c'est fait. Hein, il s'engage en première ligue à Hull City.
C'est un billet vert, quoi. C'est comme
18 millions d'euros pour Nice, ça va faire du bien. Radcliffe, qu'on a vu tout à l'heure au tirage au sort, veut rentrer un maximum d'argent. 5 ans de contrat pour lui. Goretzka, qui était libre, s'engage à Aston Villa. Aston Villa qui est en perdition pour l'instant. On va voir s'ils arrivent, vont arriver à.
Après l'année dernière, ils avaient pas lancé. Les 5 premiers matchs.
Ils ont fini par gagner Europa League et faire top 4.
Ouais.
Mais Julien Laurence, écoutez le podcast de lundi soir, la dame est très inquiet pour Aston Villa cette saison.
Ouais.
Et puis sachez que après les départs de Marmouche et Savigny à Tottenham, City s'intéresse également à Elimane Ndiaye d'après Sky Sport.
Ils en veulent 90
millions d'euros.
Ouais. C'est extraordinaire.
Non, 90 millions d'euros, Elimane Ndiaye. Ouais,
c'est un bon joueur.
C'est pas le sujet. Je ne dis pas que c'est une pipe. Elimane Ndiaye, tu m'aurais dit ça il y a deux ans, 90 millions d'euros, Walid.
Ouais,
je quittais le métier, je rendais la carte de presse, j'ouvrais un paddle, je sais pas, en région parisienne,
bon
terminé.
Bon non, mais sincèrement, le mercato de Manchester City depuis 2-3 ans et tout, va falloir l'expliquer parce que il y a plus de Chiqui Beguirisson. Ça se voit.
Il est passé à sa formation à Marseille, quand même, non, Elimane Ndiaye, non? Un an, non? Gamin, il était pas. École de foot, école de foot. École de foot, ils n'ont pas une prime derrière.
Je veux pas qu'on arrête tout ça et qu'on fasse l'argent, Nico, non? Non mais avec tous ces prix là,
c'est qu'il faut passer les diplômes et tout, faire du droit et tout, moi le droit.
Non, il faut passer les diplômes.
Ouais, avec
tout. C'est fini, on est très en retard. L'after dans un instant. Merci Adem, merci Elton, merci Walid. L'after tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.